Bonsoir à tous. Ce soir, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que Dieu est amour? Amen. C'est vrai que Dieu est amour. Et on entend d'ailleurs, c'est bien dommage, que dans certaines églises et dans bien des endroits, Dieu est amour. Dieu est amour. C'est vrai que Dieu est amour. Mais Dieu est juste aussi. On entend que Dieu est tellement amour qu'on ira tous au paradis. Vous l'avez jamais entendu à la radio? Laissez-moi vous dire que c'est pas vrai. On n'ira pas tous au paradis. Parce que c'est vrai que Dieu est amour, mais Dieu est juste. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les valeurs sont inversées. Si on prend l'exemple de la famille, on nous apprend à vivre en concubinage avant de se marier. Et celui qui ne le fait pas, il n'est pas dans la normalité. Ce qu'il fait, à la limite, celui qui se marie sans avoir eu de relation avec une femme, fait mal. C'est ce qu'on nous apprend, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. Et ça, ce sont des choses qui sont fausses, parce que ce n'est pas ce que Dieu nous dit. On est en train d'appeler le bien mal et le mal bien. On nous apprend que dans le cadre du mariage, finalement, deux hommes peuvent se marier. Ça, c'est pareil, ce sont des choses que la Bible ne nous dit pas, et au contraire même. Dieu réprouve totalement. On nous apprend aussi que dans les familles, finalement, le divorce, c'est pas grave. C'est pas grave, les enfants vont rester un peu sur le carreau pendant quelques temps, mais bon, c'est pas si grave que ça, et de toute manière, les familles, maintenant, on peut les recomposer, donc c'est merveilleux. Donc finalement, tout va bien, tout va bien. On est dans un monde où on inverse tout. Ces choses-là ne sont bien évidemment pas normales. Si je prends l'exemple de l'éducation, on va nous laisser croire qu'il faut laisser nos enfants devant la télé parce que la télé va les éduquer. Combien de parents abandonnent leur rôle vis-à-vis de leurs enfants? Et on dit que finalement, laisser nos enfants devant la télé, mais c'est bien, parce que de toute façon, ce qui passe à la télé, c'est des choses intelligentes. C'est pour leur culture, ça développe leur esprit critique, etc., etc. Et alors j'ai rien contre la télé, mais il y a des choses qu'il faut savoir contrôler. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le temps, les instituteurs, c'était des personnes très respectées. Qu'en est-il aujourd'hui des professeurs, des instituteurs? Est-ce que vous trouvez que les instituteurs, les professeurs, tous ceux qui ont la charge d'éducation sont des gens respectés aujourd'hui? Je ne crois pas. Dans la communication, on voit qu'avec tous les réseaux sociaux, finalement, l'homme communique. C'est beau, on a la nouvelle technologie, on peut envoyer ses photos à l'autre bout du monde en un instant. C'est vrai, c'est bien. Mais qu'en est-il de ceux qui font croire qu'ils sont heureux en mettant des messages sur Facebook ou des photos en disant « je m'éclate » et c'est complètement faux parce que dans leur cœur, ils sont seuls. On apprend finalement, le monde a complètement inversé les valeurs. Je vous propose de lire un texte dans Ésaïe, au chapitre 5. Qu'est-ce que Dieu en pense de tout ça? Ésaïe, chapitre 5, verset 20, je lis. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se considèrent intelligents. C'est exactement ce qu'en France on essaie d'inculquer avec les philosophes des Lumières, etc. On voit que finalement, on nous apprend, voilà, il faut réfléchir, il faut faire la philosophie. D'ailleurs, c'est dans le cursus éducatif, c'est bien de savoir réfléchir, mais où est la limite? Je continue. Verset 22. « Malheur à ceux qui sont des héros pour boire du vin aux champions de la préparation des liqueurs fortes. Ils justifient le coupable pour un présent et retirent au juste son droit à la justice. » C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme le foin livré à la flamme se consume, aussi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont rejeté la loi de l'Éternel des armées et méprisé la parole du Saint d'Israël. » Je ne sais pas si vous avez remarqué ces quelques versets à quel point ils sont actuels. Pourtant, quand est-ce que ça a été écrit ? En relisant ces versets, je me disais, c'est fou, parce que en relisant ça, je me disais, mais on est vraiment dans ce moment-là, quoi. On est vraiment dans ce moment-là. Est-ce que Dieu est amour ? Est-ce que Dieu est amour ? Ceux qui appellent le mal bien et le bien mal n'iront pas au paradis. J'aimerais lire un autre texte dans les psaumes, le psaume 14. Olivier, j'aimerais que tu mettes aussi le chant qu'on a chanté tout à l'heure. Merci pour ta parole, la première strophe. On va d'abord lire le psaume 14. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions horribles. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. D'ailleurs, l'apôtre Paul reprend ce texte dans l'épître qu'il écrit aux Romains au chapitre 3. Et souvent, quand on voit que Dieu répète deux fois la même chose, c'est que c'est quand même important. Il y a un texte pour l'Ancienne Alliance, il y a un texte pour la Nouvelle. Le même texte, que ce soit sous l'Ancienne ou la Nouvelle Alliance, il n'y a pas un seul juste. On est tous perdus. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils pas de connaissance ? Eux qui dévorent mon peuple, comme on dévore du pain, ils n'invoquent pas l'Éternel. C'est là qu'ils trembleront de peur quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Vous faire tourner à sa honte les projets du malheureux, l'Éternel est son refuge. Qui apportera depuis Sion le salut d'Israël quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple ? Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Olivier, est-ce que tu peux afficher la première strophe ? Dieu est amour, mais Dieu est lumière. Merci pour ta parole. Lumière de nos hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. Si on reprend dans ce chapitre, dans ce psaume 14, le verset 2 nous dit « L'Éternel, du haut des cieux, se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, quelqu'un qui cherche Dieu. » Ça, c'est un verset qui nous montre quelque chose d'absolument énorme quand on le réalise, c'est que malgré tout, Dieu savait ces choses. Dieu savait qu'il n'y avait pas de juste, il n'y en avait pas un seul. Et pourtant, il cherche. Pourtant, Dieu, il cherche. Il sait qu'il n'y en a pas, mais il cherche. Il cherche pour voir s'il n'y en aurait pas un. Combien on voit là l'amour de Dieu, effectivement. Parce que sur tous les milliards d'humains qu'il y a sur la terre, Dieu en a cherché un. Et il a cherché. Et il n'a pas trouvé. Ce verset nous montre justement ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Dieu nous cherche. On peut être dans le péché, mais Dieu nous cherche, parce que Dieu nous veut avec lui. Absolument, Dieu nous veut avec lui. Ça, c'est la lumière. Ça, c'est la lumière. Si on lit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, on voit encore que nous sommes ici devant ce trait de caractère de Dieu. Dieu est amour, c'est vrai, mais l'amour, dans l'évangile de Jean, elle apparaît au troisième chapitre. Au premier chapitre, il y a la lumière. Verset 1, 11. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. » J'arrête là pour l'instant. Que fait la lumière ? Dieu, quand il crée la terre et les cieux, c'est la première chose qu'il crée, c'est la lumière. Alors qu'on va peut-être se croire juste ou sage comme on l'a appris, parce qu'on a été éduqué comme ça, on a vécu sans Dieu peut-être toute sa vie. On croit qu'on vit bien, qu'on fait les choses correctement, on n'a jamais tué, etc. Bon, peut-être un petit mensonge une fois par-ci, par-là. Pas des choses grosses, mais voilà, on se croit juste. Ce que je vous ai lu tout à l'heure nous montre que finalement, le seul petit mensonge qu'on ait pu faire nous empêche d'être avec Dieu. Le simple fait qu'on ait vécu sans lui nous montre qu'on ne peut pas être avec lui. Dans l'Ecclésiaste, je vous le cite, au chapitre 3, verset 11, il est écrit « Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Nous avons tous, à un moment donné dans notre vie, nous nous sommes tous posé ces questions. Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et si je meurs ce soir, qu'est-ce qui se passe? L'éternité, c'est quoi? Comment ça se fait que l'homme, qui est toujours connu un début et une fin, ait pu imaginer que l'éternité puisse exister? Quand on y pense, c'est pas possible. On est dans un monde, si les scientifiques le diront, on est dans un monde fini. On apprend des choses qui sont finies. On apprend que des choses ont un début, elles ont une fin. Et la notion d'infini, elle vient d'où? On est tous nés, on est tous morts. D'où ça vient? Le jour où on a eu ces questions dans notre vie, comment on a réagi? Ces questions qu'on a, je dirais que c'est un cadeau de Dieu. Parce que ces questions-là, c'est Dieu qui nous les a données. C'est Dieu qui nous a donné envie de savoir, mais pourquoi il n'y aurait pas l'éternité? Pourquoi est-ce qu'on doit mourir un jour ou pas? Pourquoi est-ce que je suis là? Ces questions qu'on a tous dans notre cœur, ou qu'on a tous eues, qu'on s'est tous posées, c'est Dieu qui nous les a données. Et comment est-ce qu'on y a répondu à ces questions? Est-ce qu'on est comme dans ce psaume 14, on n'a pas cherché? Quand Dieu nous pose ces questions, parce que c'est Dieu qui nous les pose ces questions, on ne se rend pas compte, mais c'est Dieu qui nous les pose. Quand on est face à ces questions, quelle a été notre réaction? Est-ce qu'on s'est dit, je m'en occuperai demain, pour l'instant j'ai ça à faire? Ou est-ce qu'on a commencé à chercher? Est-ce qu'on a commencé à chercher? Combien de témoignages j'ai entendu de personnes qui ne connaissaient pas Dieu et n'avaient jamais reçu une quelconque éducation spirituelle, mais qui ont cherché et qui sont allés dans une religion et qui ont pu voir qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et qui sont changées parce qu'ils trouvaient que c'était pas bien. Et ils ont changé de religion, ils sont allés ailleurs et ils ont vu que là encore il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et au final, de fil en aiguille, à force de chercher, mais Dieu nous met sur la voie. Celui qui cherche, il trouve. Parce que c'est écrit dans la Bible. Celui qui est sincère et qui cherche, il trouve. Face à ces questions, comment est-ce que nous avons répondu? Si on n'a pas répondu à ces questions d'une manière sérieuse, c'est suffisant pour qu'on soit écarté de Dieu. Dieu est lumière parce qu'il nous éclaire sur nous-mêmes. Il nous montre que justement, par ce psaume 14, par ce qu'on a pu lire dans Ésaïe, on n'est pas sauvé. On est loin de lui pour l'éternité. Il nous éclaire sur notre état. Si je reprends mon passage dans l'évangile de Jean, au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il s'agit de la lumière, de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Dieu nous cherche. Et Dieu nous veut avec lui. Ça, il faut qu'on en soit certain. Et s'il y a quelque chose que je voudrais que vous reteniez ce soir, c'est ça. C'est que Dieu nous cherche. Est-ce que nous le cherchons, nous? Est-ce que nous voulons être près de lui? Dieu nous veut avec lui, absolument. Là, d'accord, il y a l'amour de Dieu. Parce que Dieu, il nous cherche. Dieu, il sait qu'on est perdu. Il sait qu'on va aller au gouffre. Et pourtant, Dieu nous cherche et il veut nous sauver. Comment est-ce que Dieu a fait? On peut continuer dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 16. un verset que vous avez certainement dû entendre ou lire quelque part, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans Hébreux, au chapitre 9, je vous fais chercher dans votre Bible, au chapitre 9 et au verset 22, il est écrit « Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Le prix à payer pour être avec Dieu, c'est que du sang coule. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il y avait les sacrifices, parce que ces sacrifices préfiguraient quelque chose de bien plus grand qu'a été le sacrifice parfait que Jésus a accompli pour nous à la croix. Et enfin, dans Romains, au chapitre 3, au verset 21, « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est une redite de ce qu'on a vu. « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Il fallait qu'il accroît pour qu'on puisse être pardonné. Le moyen que Dieu a trouvé pour que nous puissions être sauvés, pour que malgré tout, malgré le fait qu'il n'ait pas un seul juste, eh bien on puisse quand même être auprès de Dieu. Et c'est là où on voit tout son amour, malgré qu'il y ait aussi la justice de Dieu, c'est que Jésus est mort à notre place. Son sang a coulé pour nous. Jésus n'a commis aucun péché. Jésus a toujours vécu en tant qu'homme, en accomplissant exactement la loi qui était prescrite. Il a vécu toute sa vie sans commettre le moindre péché. Il a vécu comme étant la lumière du monde. Et pourtant, quand il était sur la croix, pendant 3 heures, il y a eu des ténèbres. Parce que Jésus, comment ça se fait que la lumière du monde était dans les ténèbres pendant 3 heures quand il était sur la croix? Si vous regardez dans votre Bible, c'est bien précisé. Les ténèbres ont duré 3 heures. Et j'imagine la scène. J'imagine la scène, les gens, ils ont dû voir une éclipse de 3 heures. Est-ce qu'ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus, c'était la lumière du monde. Quand il a été transfiguré, il était d'une blancheur éclatante. Et là, il meurt et il fait noir. Mais pourquoi? Il fait noir. Et pendant 3 heures, il fait noir, jusqu'à ce qu'il rende l'esprit. Pendant ces 3 heures-là, Jésus, il a porté notre péché. Pendant ces 3 heures-là, le Seigneur Jésus, il a souffert pour nous. Et il a donné sa vie pour nous. Pour que nous puissions être auprès du Seigneur. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je peux être pardonné? On l'a pu voir tout à l'heure. Que Dieu nous pardonne tout. Absolument tout. Et pour preuve, si je lis dans Luc, au chapitre 23, l'un des malfaiteurs suspendu en croix blasphémait contre lui. Il blasphémait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Ce brigand-là, il reconnaît que la croix est une justice par rapport à ce qu'il a fait. La crucifixion, c'est le pire des châtiments. Donc ce brigand-là, il n'a pas fait des petits vols à la sauvette. Il a fait bien plus que ça. Parce qu'il reconnaît que la croix pour lui est juste. Imaginez à quel point il a pu faire. Comment il a pu vivre. Il méritait la croix et il le savait. Et il trouvait ça juste. C'est une sacrée prise de conscience quand même. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Mais si on continue, qu'est-ce qu'on lit? Alors, j'étais où? Et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce brigand, il a été pardonné. Alors, Effectivement, il a simplement demandé à Jésus de se souvenir de lui. Mais dans son cœur, il avait une prière qui était vraiment sincère et que seul Jésus a entendue. Il y a des prières comme ça qu'on ne peut pas faire tout fort parce qu'il y a les autres, parce que voilà, parce qu'on est aussi sobre. Et il y a des choses, on n'osera pas le dire tout fort. Vous pouvez lire dans le livre de Samuel, la maman de Samuel, quand elle était dans le temple, elle n'a même pas ouvert la bouche. Elle a prié dans son cœur. Ce brigand, elle a prié dans son cœur. Il savait qu'il avait fait la pire des choses. Il méritait la croix, il le savait. Et pourtant, il a prié dans son cœur et Dieu a entendu cette prière. Ce qu'il a formulé avec sa bouche, c'était une sorte de prière vis-à-vis de l'autre. Voilà. Mais dans son cœur, il a fait une réelle prière. Il a crié au secours. Et Dieu a entendu sa prière. Il a été pardonné. Si lui, il a été pardonné, comment nous ne pourrions pas être pardonnés? C'est Jésus lui-même qui nous a dit qu'il fallait qu'on puisse pardonner 70 fois cette fois. Si Jésus nous le demande, c'est bien parce que lui le fait. Et il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne aussi, c'est que dans la Bible, il y a des commandements, mais ces commandements, ils reflètent Dieu lui-même. Quand Dieu nous dit de haïr le mensonge, c'est parce que Dieu ne peut pas nous mentir. Sinon, il ne nous demanderait pas. Il veut qu'on soit à son image. Quand Dieu nous dit de ne pas voler, c'est que Dieu ne vole pas. Dieu nous donne. Dieu nous demande de faire des choses qui sont en complète corrélation avec son image à lui, parce qu'il veut qu'on soit comme lui. Quand Dieu nous dit de faire des choses, c'est parce qu'il est comme ça. Quand Dieu... Voilà, si vous reprenez les commandements que Dieu a donnés, ces commandements-là ne font que refléter ce qu'il est lui. Le pardon est pour tous. Pour terminer, j'aimerais lire un passage en hébreu. Non seulement on a pu se poser ces questions existentielles dans le passé, mais là maintenant, Dieu a encore fait la lumière sur ces choses. Et il nous montre que sans lui, nous sommes perdus. Au chapitre 2, comment échapperons-nous? Au verset 3, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut, annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. On ne peut pas négliger ça. Face à ces questions, Dieu nous demande une réponse. Dieu est lumière. Et quand la lumière s'allume, les ténèbres partent. Si la lumière disparaît, les ténèbres reviennent. C'est automatique. Les deux ne peuvent pas se mélanger. Face à ces questions-là, on n'a qu'une seule position. Soit on est dans les ténèbres, soit on est dans la lumière. Quel est notre choix? Est-ce qu'à nouveau, on va négliger une fois de plus les bras ouverts que Jésus nous tend? À la croix, ses bras étaient ouverts. Mais ses bras sont grands ouverts comme le Père a accueilli le Fils prodigue. Dieu est prêt à nous accueillir dans ses bras parce qu'il nous aime et son désir, c'est vraiment ça, c'est qu'on soit près de lui. On voit des religions de droite et de gauche où les dieux, ils envoient leurs fidèles se faire mourir, se faire exploser, pour faire allusion à celle qu'on connaît. Mais la réalité, c'est pas ça. Ça, c'est une tromperie. Et elle est énorme en plus. Parce que la vraie réalité, c'est l'inverse. La vraie réalité, c'est que Dieu s'est offert. Dieu est mort par Jésus. Jésus est mort pour nous. Alors celui qui dit, moi pour être sauvé, je vais me faire crucifier, on en a vu. Moi pour être sauvé, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais il n'y a pas besoin parce que Jésus a déjà tout fait. Ce que vous voudrez faire par vous-même, c'est de l'orgueil. Ce que vous voudrez faire par vous-même, par vos propres œuvres, c'est de l'orgueil. Dieu nous veut avec lui et il veut qu'on croie en lui. Parce que lui, il a tout fait. Pas besoin d'aller faire ceci, cela, de se faire exploser ou ceci, cela, parce que Jésus, lui, il est déjà mort pour nous. Il n'y a plus besoin. Et pour conclure, dans l'épître, la première épître de Jean, c'est un passage qui conclut assez bien tout ce qu'on a pu voir ce soir. Chapitre 1er, verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. On peut tous être pardonnés. On peut tous être pardonnés. Parce que Jésus a tout fait à la croix pour nous. Maintenant, comment est-ce qu'on se place par rapport à ces choses? Je vais remercier le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te remercions parce que tu nous veux près de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur, parce que c'est uniquement par ta grâce que nous pouvons être près de toi. Parce que par Jésus, tu as tout fait pour nous. Seigneur Jésus, ce que tu veux, c'est que nous soyons tous sauvés, parce qu'il est dit dans ta parole que tu cherches s'il y en a un qui fasse le bien. Même un seul. Seigneur Jésus, ma prière, c'est que nous tous qui sommes là ce soir, nous puissions être près de toi quand tu reviendras, Seigneur Jésus. S'il te plaît, Seigneur, que tu puisses nous faire grâce ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour la lumière que tu mets sur nos cœurs. Aide-nous, Seigneur Jésus, à prendre position et à faire le bon choix, Seigneur. Loué soit ton nom, Père. Amen.